accompagné de Jean 10, versets 7 à 30, qui vont nous éclairer sur ce psaume.
Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oindues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Jean, chapitre 10, versets 7 à 30. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Oh, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ah, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jésus, à Jérusalem, la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand mettras-tu notre âme en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. »
La première phrase de ce psaume est d'une extrême concision. Le Seigneur est mon berger. C'est très concis en hébreu parce qu'il n'y a que deux mots en hébreu. Adonai Ro'i. Le Seigneur est mon berger. Lors d'une pastorale, il y a quelques années, un enseignant nous disait qu'il s'agissait là d'un poème, d'une poésie. Je veux bien admettre qu'il s'agit d'un poème, mais pas de poésie. Ce psaume tellement célèbre exprime une expérience historique. C'est un condensé de l'expérience historique qu'Israël a vécue avec son Dieu. L'Éternel est mon berger. Le psalmiste exprime ainsi toute l'expérience d'Israël. Il se l'approprie aussi personnellement. Quand est-ce que le Seigneur a montré qu'il est le berger d'Israël? Très clairement, lors de la sortie d'Égypte. Cette sortie d'Égypte, elle est célébrée chaque année à la fête de Pâques, en hébreu, Pessah. C'est exprimé dans le psaume 77, verset 21. Israël dit au Seigneur, « Tu as conduit comme un troupeau ton peuple. » Mais ce n'est pas seulement une expérience du passé que Israël exprime quand il fête Pâques, Pessah. Jérémie 31, verset 9 nous dit ceci, « Nation, écoutez la parole de l'Éternel. » Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Donc cette expérience de la sortie d'Égypte, on en attend de nouveau une nouvelle expérience, un nouvel accomplissement. Ainsi nous comprenons pourquoi Jésus a attendu Pâques pour faire le dernier repas avec les siens, pour mourir et ressusciter. Et pourquoi il dit lui-même, « Je suis le berger, le beau. » En effet, c'est ce mot « beau » qui est employé en grec. Ce mot « beau » a ici le sens de « bon ». Comme en français parfois, quand on dit d'un outil, « c'est un bel outil », on veut dire que c'est un bon outil, un outil qui remplit bien sa fonction. Eh bien, c'est cela, quand Jésus dit « Je suis le berger, le beau », il veut dire qu'il est un berger qui remplit une fonction et qui est vraiment fidèle à cette fonction. Il est même appelé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Notre Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc la sortie d'Égypte, avec toutes sortes de miracles extraordinaires qui prouvent la maîtrise de Dieu, de la création, quand il veut sauver son peuple, il peut même bouleverser la création, faire des miracles créationnels. Cette sortie d'Égypte s'est renouvelée avec la venue de Jésus. Sa mort et sa résurrection sont une nouvelle création et le salut pour nous. La fin des temps encore que nous attendons, on verra se reproduire cette Pâque, puisque l'Apocalypse, quand on étudie ce livre qui décrit l'aboutissement du monde dans le royaume de Dieu, les plaies d'Égypte, on les retrouve au niveau mondial, et la délivrance du peuple de Dieu, on la retrouve aussi, et on en saura, ce sera la Pâque éternelle. Oui, l'Éternel est mon berger. Cette affirmation est vraiment lourde de sens. Et cela va au-delà d'une simple poésie ou d'une simple piété personnelle. Mais on peut bien sûr aussi adapter cela à notre piété personnelle. Le Seigneur est mon berger. Cela a une signification historique. Dieu a démontré historiquement qu'il est le berger d'Israël. Nous attendons la venue de son règne. Il est vraiment celui qui saura sauver son peuple. Nous attendons un salut personnel, mais en même temps un salut qui touchera le monde entier. Le Seigneur est mon berger. C'est donc une synthèse de l'histoire d'Israël. Ce peuple, qui n'aurait jamais dû exister car il était un ramassis d'esclaves, il est devenu un peuple. Et il a résisté à 3000 ans d'extermination continuelle par les nations, pas tout le temps de la même intensité, mais régulièrement ce peuple, les nations veulent le rayer de la surface de la terre, mais il est toujours là, témoignant par sa simple existence historique que le Seigneur est son berger. Et comment est-ce que le Seigneur est devenu le berger d'Israël? Il est très intéressant de lire dans Exode 3, versets 7 à 8, comment le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. » Et que dit-il ensuite? « Je vais vous envoyer un ange pour vous aider ?» Non. Il dit, « Je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer. » Il n'a pas délégué cette délivrance à une puissance angélique. Il est descendu lui-même pour sauver son peuple. Ne prenons pas ça comme une figure de style. Jésus nous a appris à prendre au sérieux chaque mot de la Torah, chaque mot de l'Écriture. Jésus nous a appris à prendre au sérieux la façon dont Dieu s'exprime dans la Torah. Et là, il nous dit, je suis descendu. Lui-même, le Seigneur Dieu, est venu, devenu le berger de son peuple. Le Dieu créateur lui-même est entré dans la création pour sauver Israël. Voilà pourquoi Israël passe sans cesse par la mort, mais aussi par la résurrection. Parce que le nom de Dieu est désormais dans ce peuple, lié à ce peuple. Et l'acharnement des nations se casse les dents sur ce peuple, comme il se casse les dents sur l'Église, qui est le peuple que Jésus rassemble par sa mort et sa résurrection. En effet, Jésus dit à Pierre, que Pierre, sur cette pierre, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Jésus, c'est le Seigneur qui est descendu sur terre pour sauver des êtres humains de toute nation, de toute langue, de tous les pays. Comment? Lui aussi, en déposant sa vie, en venant lui-même au milieu de l'humanité, en déposant sa vie et en la reprenant, nous dit-il dans ce texte que Claude nous a lu. La résurrection de Jésus est exprimée dans ce verbe « en la reprenant ». Il intègre dans cette résurrection toutes les personnes qu'il a appelées de toute nation. Jésus a déposé sa vie et l'a reprise. Mais il ne l'a pas reprise sans y avoir intégré toutes ses brebis. La résurrection, autant que la mort de Jésus, est cause de notre salut. C'est pour cela qu'il est le berger, le beau. Il est le berger qui remplit sa fonction jusqu'au bout. Il remplit cette fonction encore et encore. Nous pouvons faire passer comme ce berger par la vallée de l'ombre de la mort et peut-être plus souvent que nous ne l'attendions. Nous pouvons même y laisser notre peau comme cela arrive pour tant de chrétiens actuellement à travers le monde. Pourtant, le psalmiste ne craint pas cela. Il dit « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, tu es auprès de moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La proximité du Seigneur est d'autant plus forte que la mort rôde autour de nous. » Non seulement le psalmiste dit « ne craindre aucun mal » lorsque la mort rôde, non seulement il est alors conscient d'une proximité exceptionnelle de son berger, mais il est même rassuré, réconforté, en regardant à ce berger. Ne venons-nous pas de voir que ce berger a déposé et repris sa vie, qui nous a intégrés à sa résurrection? Peut-il y avoir une force plus grande? La force de la résurrection peut-elle être surpassée? La bombe atomique serait-elle plus forte? Les armes chimiques seraient-elles plus fortes? Les missiles seraient-ils plus forts? Le psalmiste dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Souvent, nous imaginons un bâton comme celui d'un marcheur en montagne. Le bâton des bergers à l'époque de David est une massue, améliorée peut-être avec des bouts de ferraille dedans, pour pouvoir assommer les prédateurs. La vue de cette massue rassure la brebis, qui n'a aucun moyen de défense autonome. Ses moyens de défense sont extérieurs à elle, dans les mains du berger. Mais il ne suffit pas d'être protégé de nos ennemis. Il y a aussi le danger qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. Nous nous égarons si facilement. C'est pourquoi le psalmiste parle aussi de la houlette dans la main du berger. La houlette, ce n'est pas pour les prédateurs, c'est pour les brebis. Avec la houlette, le berger attire à lui doucement les brebis qui s'écartent du chemin. Soyons attentifs avec quels mots Jésus prend la peine de nous rassurer. En utilisant l'image de l'ouvrier agricole salarié, qui n'offre, lui, aucune garantie aux brebis, puisqu'il travaille pour un salaire. Le berger, lui, ne travaille pas pour un salaire. Jésus ne travaille pas pour nous parce qu'il en tire profit. Il se solidarise avec nous par pur amour, parce qu'il nous voit comme lui étant donné par le Père. Il nous voit confié à lui par les mains de son Père. Et c'est pourquoi il dit, au verset 29, « Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. » Nous sommes tellement grands pour Jésus qu'il donnera sa vie pour nous. Car il n'est pas possible que quelque puissance que ce soit nous arrache de la main de son Père. Nous sommes tellement importants pour Jésus puisqu'il nous voit, lui, dans la main du Père. Le Père nous a donné à Jésus, et Jésus prend très au sérieux cette charge que le Père lui a confiée, à tel point qu'il nous voit plus grand que tout. Il veut nous sécuriser. Et pour nous sécuriser, il nous révèle le nom de son Père, qui est un. C'est la révélation fondamentale donnée à Israël. Jésus nous ouvre à cette révélation. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur, un. Deutéronome 6, 4. Connaissons-nous cet amour du Père qui est un avec nous? Jésus le connaît. Jésus nous le révèle. C'est pour cela que Jésus enseigne alors que cela lui crée tellement de problèmes, jusqu'au point d'être traité de démon. Nous voyons ça au verset 20. Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Mais d'autres personnes répondent, ce ne sont pas là les paroles d'un démonisé. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Verset 21. Remarquez que Jésus n'a ouvert les yeux que d'un aveugle, au chapitre 9, un aveugle de naissance. Mais les gens disent qu'il ouvre les yeux des aveugles. Oui, nous sommes ces aveugles. C'est notre condition congénitale d'être aveugle pour pouvoir voir Jésus et croire en lui. Il faut que Jésus lui-même nous ouvre les yeux. Il faut que notre être tout entier soit saisi, que notre intelligence soit saisie par celui qui a créé l'intelligence, que notre âme soit elle-même emportée par celui qui a déposé son âme pour nous. Il est saisissant de lire le texte en grec. Littéralement, au verset 24, les gens disent à Jésus, « Jusqu'à quand enlèveras-tu notre âme ?» Après que Jésus vient de dire au verset 17 et 18 que personne ne lui enlève son âme, mais qu'il la dépose de lui-même. L'amour que Jésus nous témoigne enlève littéralement notre âme. Nous sommes emportés, subjugués par un si grand amour. Sans le savoir, les interlocuteurs de Jésus ont donc dit la vérité. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu en Jésus, nous renouvelle de fond en comble. Il est capable de faire voir les aveugles de naissance que nous sommes. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens. Une cécité plus grande lui est tombée dessus en voyant la lumière de Jésus ressuscité. Et cette cécité ne lui a été ôtée que par l'amour fraternel quand un chrétien à Damas lui a imposé les mains. Il y a quelque chose de violent et en même temps de doux dans l'amour de Dieu. C'est en Jésus que nous avons l'explication de l'énigme de Samson, du fort est sorti le doux. Juges 14, verset 14. L'amour de Dieu en Jésus nous enlève l'âme, mais en même temps il est le seul Dieu qui ne vient pas pour nous tuer, nous sacrifier. Dans toutes les religions, on apprend aux fidèles à se sacrifier pour leur Dieu. C'est aujourd'hui particulièrement flagrant dans les attentats suicides commis par les adeptes de l'islamisme. Jésus nous a prévenu que le voleur ne vient que pour voler, sacrifier, pour aussi traduire immoler, et perdre. Voler, sacrifier et perdre. Jean 10, verset 10. Voilà ce que font les religions. La religion chrétienne, au sens mauvais du terme, fait la même chose. Il faut se sacrifier. Voilà leur slogan. Ce n'est pas ce que nous demande de Jésus. C'est lui qui se sacrifie. C'est en effet le même verbe employé par Paul à propos de Jésus dans le verset que j'ai déjà cité. 1 Corinthiens 5, 7. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Bien traduit, immolé. Oui, Jésus précise qu'il dépose son âme, mais que personne ne la lui enlève. Verset 18. Il a déposé son âme donc de lui-même. Ça veut dire par amour. Le Dieu vivant demande notre vie, certes, mais pas à la manière des religions qui sont des voleurs. Le Dieu vivant est le premier à nous donner sa vie en Jésus-Christ. Et cet amour nous ravit le cœur et nous donne simultanément la possibilité de répondre en toute confiance et par amour, nous aussi. Je vais maintenant vous poser une question brutale. Avez-vous déjà mangé avec le diable ? Eh bien, les disciples ont mangé avec le diable et avec Jésus. Le dernier repas, Jean 13, verset 27, on nous dit que Satan entra en Judas au moment où Jésus lui donna la bouchée, au dernier repas. Et je fais le lien avec le verset du psaume 23. Tu dresses devant moi une table contre mes ennemis. On ne peut pas utiliser des images plus contradictoires. Dieu ne vient pas avec une armure, avec des tanks, des missiles, pour nous protéger de nos ennemis. Il dresse une table. La table est synonyme de tranquillité, de convivialité, d'amour partagé. Et pourtant, le diable est là lui aussi. Mais Jésus est là. C'est lui qui fait tout le travail. C'est lui qui aime jusqu'à la perfection. Jean 13, verset 1. À cette table, d'après le psaume, il y a le parfum, l'huile répandue sur la tête des invités à l'époque. Ça sent bon. Et le vin qui remplit la coupe, ça détend, ça rend joyeux. Jésus a fait passer la coupe à son dernier repas. Le diable était là, mais Jésus était là. Il nous a gardés dans une paix surnaturelle, sa paix à lui, puisqu'il dit à ce dernier repas, Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Oui, il y a beaucoup de violence dans ce monde. Mais au cœur de cette violence, il y a la paix de Jésus. Cela est souligné dans Jean par le verbe « expulser », employé deux fois dans Jean 9, 34. Ils, les pharisiens, l'expulsèrent, l'homme aveugle devenu voyant. Et dans Jean 10, verset 4, quelques versets plus tard, Jésus dit pour le berger, lorsqu'il a expulsé toutes ses propres brebis. L'aveugle devenu voyant est expulsé du temple parce qu'il refuse de dire que Jésus est un pécheur. Et Jésus dit qu'il expulse ses brebis du parvis du temple. Toutes les violences qui nous sont faites, Jésus les prend à son compte. À Shaoul persécutant les chrétiens, Jésus dit deux fois qu'en persécutant les chrétiens, c'est Jésus lui-même qui persécute. Acte 9, versets 4 et 5. Jésus encourage ainsi l'aveugle devenu voyant. Ils t'ont expulsé. Mais moi, je suis expulsé avec toi. Suis-moi. Je dépose ma vie pour toi et je la reprends. Nous allons vers la résurrection. Nous y allons avec Jésus. Et même pour lui, c'est déjà fait. Nous pouvons déjà dire à Jésus, en reprenant ses propres mots, « Oui, tu es un avec le Père. J'ai toute confiance en toi. Tu as déposé ta vie pour moi. Tu l'as reprise pour que je n'aie plus peur de te suivre. » Ainsi s'accomplit la prophétie, la parole de Dieu dans Ézéchiel 34, les versets 31, 23 et 24. Et je termine par ces versets que je traduis littéralement. Et vous, mon troupeau, troupeau de ma pâture, humanité, vous, moi, votre Dieu, je ressusciterai sur eux un berger, un, et il les paîtra, mon serviteur David, lui les paîtra, et lui deviendra un berger pour eux, et moi, le Seigneur, je deviendrai pour eux, pour Dieu, et mon serviteur David, prince en leur milieu, moi, le Seigneur, j'ai parlé.